Gondry commence sa carrière en 2001 par un film qui s'intitule Human Nature. Et je vous mets au défi de trouver un cinéaste français dans l'histoire du cinéma qui a commencé sa carrière aux États-Unis. Vous aurez beaucoup de mal à trouver, en fait. Vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver parce que c'est un cas de figure assez hors du commun. Et ça s'explique par le fait que sa carrière était entamée aux États-Unis par l'intermédiaire de réalisations, comme je l'ai dit, de publicités et de clips. Et quand il commence à faire du cinéma véritablement, il avait fait quelques courts-métrages préalablement, c'est un nouveau défi et surtout, il est un peu attendu au tournant parce que dans les années 90, il est devenu le réalisateur de clips le plus populaire au monde et sans doute le plus talentueux. Il a vraiment réinventé cette forme, ce registre. Donc quand il commence à faire du cinéma, en fait, beaucoup lui prédisent un échec immédiat. 2001 Human Nature, 2004 Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez important pour lui parce qu'il est encore assez jeune à cette époque, parce que le film met en scène deux immenses stars que sont Kate Winslet. Il y a eu Titanic peu de temps avant, donc elle est une star mondiale, et Jim Carrey, qui est un peu au sommet de sa notoriété et qui joue un rôle dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. C'est un peu son Tchao Pantin à lui, quoi, finalement. Un rôle dramatique, ce n'était pas coutumier du tout pour Jim Carrey à cette époque, qui était plutôt encore un acteur de burlesque moderne, quoi. Un Oscar, donc le film sera récompensé d'un Oscar, donc sa carrière est lancée. En 2004, un documentaire qui s'intitule I've Been 12 Forever, qu'on trouve notamment, et ce de manière absolument légale, sur YouTube. Si vous voulez le voir, il a été mis en ligne par Partisan, dont vous voyez le logo en bas à gauche, en fait, qui est le producteur historique de Michel Gondry, boîte dirigée par Georges Berman, homme sans lequel Gondry ne serait rien, très clairement. C'est lui qui a rendu possible, en fait, sa carrière. Et puisqu'a priori, vous allez mener un travail pédagogique sur l'épine dans le cœur, je vous conseille vraiment de regarder I've Been 12 Forever, parce que c'est un documentaire qui date déjà d'il y a une quinzaine d'années, mais dans lequel en fait Gondry raconte à peu près tout. Comment lui viennent ses idées, comment naissent ses inspirations. Il est question de rapport à la famille, de rapport aux souvenirs de manière plus générale. C'est vraiment quelque chose de très riche en matière de ce que ça peut apporter, dire sur la personnalité de Gondry. Et puis sur son rapport à la création aussi. En 2006, La science des rêves, qui est un film assez connu aussi de Michel Gondry, qui a un titre en forme d'oxymore, puisque ça mêle quelque chose qui est rigoureux et que l'on peut valider ou invalider, la science. Et puis les rêves, par définition, le domaine de l'impalpable. Ça dit toute la quasi-schizophrénie de son intention et de son travail, c'est-à-dire quelque chose qui est d'une très grande rigueur, et une autre dimension qui est plus soumise à l'aléatoire, on va dire. 2006, Dave Chappelle's Block Party, c'est un documentaire qui évoque la mise en place d'un concert dans le Bronx avec toutes les grandes stars de la musique afro-américaine de l'époque. Et c'était un concert assez significatif parce que ça marquait notamment le retour sur scène des Fugees. Je pense que ça vous dit quelque chose, emmené par Lauryn Hill qui avait splitté quelques années auparavant. En 2008, Soyez sympa, rembobiné, le film que les enseignants de collège et de lycée aiment, puisque ça fait 157 ans qu'il est dans les catalogues nationaux, et qu'il est donc massivement vu. C'est un film qui est, à sa manière aussi, une sorte de manuel ou d'explication presque clé en main de la manière dont Gondry considère le cinéma et la création comme étant par définition collective. Il y a, je pense, foncièrement dans Soyez sympa, rembobiné, et plus largement dans ce que Gondry peut faire, un projet politique qui n'est pas énoncé comme tel, qui n'est pas clairement revendiqué, mais qui est une sorte de militantisme discret qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que le cinéma c'est une affaire collective finalement. 2010, L'épine dans le cœur. 2011, The Green Hornet, l'adaptation d'une série série qui, pour la petite histoire, avait lancé la carrière de Bruce Lee aux États-Unis et qui est en fait un film de super-héros. Donc là, ça vous permet tout de suite de situer l'épine dans le cœur. L'épine dans le cœur, c'est entre Soyez sympa, rembobiné et The Green Hornet. Vous voyez ? Je vais y revenir. 2012, The We and the I. Les choses étant particulièrement bien faites, The We and the I peut être considéré comme une sorte de remake ou de relecture de Breakfast Club, que je crois certains d'entre vous ont vu hier matin, si j'ai bien compris. Ok. C'est peu ou prou le même dispositif, sauf qu'au lieu d'être enfermés dans un lycée, dans une bibliothèque pour écrire une rédaction sur eux-mêmes, les lycéens de The We and the I sont enfermés dans l'habitacle d'un bus. Ça se passe le dernier jour d'une année scolaire et en fait c'est le bus qui les ramène chez eux. Donc y a différents groupes comme ça qui ne s'entendent pas les uns les autres. Les latinos, les afro-américains, les filles, les garçons, enfin c'est plein de tensions, c'est un vrai vivier de tensions avec des groupes qui sont extrêmement stéréotypés, comme au début de Breakfast Club. Et puis plus le bus va avancer, plus les langues vont se délier, plus la compréhension et le respect mutuel vont naître jusqu'à devenir une sorte d'abstraction, puisqu'on a l'impression que le bus y roule des jours et 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 qu'il passe dans une autre dimension. Peu importe la dimension réaliste du film, ce qui nous importe, c'est comment en fait des antagonismes vont être atténués. C'est un très beau film, The Way and the Eye. Je pense que c'est un des meilleurs films de son auteur et si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. 2013, le film que les profs de lettres n'aiment pas, L'écume des jours, souvent considéré comme étant un ratage, ce que je tiens à refuser immédiatement. Donc bien évidemment, c'est... C'est l'adaptation de Vian et en fait c'est le grand projet. C'est le grand projet de Michel Gondry, c'est un projet qu'il faisait mûrir depuis une vingtaine d'années. Sauf que pour pouvoir faire ce film, il avait besoin de temps et il avait besoin aussi et surtout de beaucoup d'argent. La nécessité d'une production très importante, elle est notamment visible dans le film par le côté un peu maus du bankable, comme on dit, du casting. Omar Sy, Audrey Tautou, etc., etc. Romain Duris, Gad Elmaleh. Enfin, le casting clignote de partout. C'est vraiment que des stars. Mais parce qu'en fait, le film avait une nécessité d'être rentabilisé, comme il avait coûté extrêmement cher. Et ça a été un échec. Ça a été un échec critique, ça a été un relatif échec public. Et ce qui est très clairement, ce qui est une certitude, c'est qu'après cet échec, un peu à tout niveau, la carrière de Gondry n'a plus été la même et ne sera plus la même. En France, il est peu probable que Gondry puisse refaire un film de très grande envergure commerciale. Le cinéma français, le cinéma de manière générale, il est assez impitoyable. Mais sa cote reste beaucoup, vraiment majeure aux États-Unis, tandis qu'elle s'est objectivement affaiblie en France. Alors que dire sur L'écume des jours ? Moi, j'ai une affection pour ce film, parce que je trouve que c'est une adaptation très fidèle. Et en même temps, c'est un projet qui était presque voué à l'échec, dans la mesure où Gondry est en permanence dans l'invention d'une logique visuelle. Il est en permanence dans la création d'éléments visuels nouveaux, qui sont souvent de l'ordre de l'illustration. C'est ce qui existe dans ces clips. Généralement, ce qui va donner corps au clip, c'est la construction rythmique du morceau et les paroles qu'il va s'agir d'illustrer par un moyen ou par un autre. Je vais y revenir. Et le problème avec L'écume des jours, en fait, c'est que les images existent déjà dans le roman, en fait. Il n'y a plus besoin de les inventer puisqu'elles existent. La fertilité terminologique de Vian, elle est telle que, en fait, quand on lit le roman, on le voit. Donc, en fait, ça fait presque doublon. Moi, c'est mon avis. Mais bon, après, on pourrait en discuter longtemps. C'est toujours l'interrogation au sujet de l'adaptation. C'est qu'est-ce qui est mieux, le roman original ou son adaptation au cinéma. Et malheureusement, ça tourne souvent en faveur du premier. Après l'écume des jours, il y a de nouveau un projet qu'on va qualifier d'américain, conversation animée avec Noam Chomsky. Noam Chomsky, c'est ce fameux penseur et linguiste américain avec lequel Gondry a mené une conversation filmée, animée, pendant quelques jours, et il en a tiré un film qui est très beau là encore, qui contient une grande densité d'informations, à la fois visuelles et puis aussi en termes de texte, parce que le film est en anglais, la discussion s'est menée en anglais, donc qui nécessite sans doute plusieurs visionnages pour être pleinement saisi, je pense. Et le dernier long métrage en date de Michel Gondry, c'est Microbes et Gasoil, le plus autobiographique de ses films. La science des rêves était déjà un film autobiographique. Un court-métrage parmi ses premiers qui s'intitule La lettre était déjà un film autobiographique, mais sans doute que Microbes et Gasoil, c'est ce qui, de la plus précise des manières, raconte une partie de son enfance. C'est un film assez modeste économiquement, mais c'est un film, je trouve, assez touchant. Voilà la liste des longs-métrages de Michel Gondry. Quelques particularités, comme ça, si on la considère de manière transversale. Une carrière qui est polarisée entre la France et les États-Unis. Voilà, c'est vraiment un cinéaste qui est à cheval entre les deux pays. Sa première partie de carrière est américaine. Il y a le retour en France avec La science des rêves. Il y a ensuite de nouveau un long moment aux États-Unis. Un retour qui devait être un grand retour avec L'écume des jours. Puis de nouveau aux États-Unis avec Noam Chomsky. Puis de retour en France avec Microbes et Gasoil. Et je vous dis, pour l'heure, Gondry est un cinéaste américain et le restera, à mon avis, pendant encore quelques années en termes de possibilité, de faisabilité de projets, je pense. Il y en a très peu des cinéastes français qui sont dans ce cas de figure, voire il est le seul, pourrait-on dire. Quelques cinéastes français qui ont tenté l'aventure américaine, généralement ça s'est soldé par un échec, ou alors quand ils y sont, ils y restent, quoi. On peut penser à d'autres cinéastes qui sont passés par la France, on va dire, puis ensuite on fait une carrière aux États-Unis. Je pense à Marjane Satrapi, par exemple. Après le succès de Persepolis, elle a refait quelques films en France, et puis maintenant elle a une carrière qui est américaine. La filmographie de Michel Gondry est majoritairement composée de films de fiction, mais il y a tout de même 4 films documentaires. Il y a I've Been 12 Forever, dont je vous ai parlé, documentaire à la première personne. Il y a Dave Chappelle's Block Party, où là le cinéaste est beaucoup plus en retrait. C'est une communauté, finalement. Et puis un happening qu'il filme. Il y a conversation animée avec Noam Chomsky. Et puis il y a bien évidemment L'épine dans le cœur. Donc 4 films documentaires, ce qui représente quand même un tiers de ces longs métrages, donc c'est une portion qui n'est pas du tout négligeable. Et le dernier point comme ça, assez global, assez transversal sur son travail, c'est la grande variabilité économique et statutaire des films. Mais ça, je l'ai déjà pointé. Il y a des films qui se situent dans une économie hollywoodienne, The Green Hornet, dont il a été assez clairement dépossédé par l'acteur principal, Seth Rogen, qui s'est réapproprié à la fois le scénario, un peu la mise en scène, etc. Donc là, il a été plutôt quelqu'un qui a apporté un savoir-faire technique, d'autant que c'est le seul et unique film de sa part qui est en 3D, même si c'est une 3D qui n'a pas été faite au tournage, mais en post-production. Juste avant se situait L'épine dans le cœur. Donc vous voyez, c'est une amplitude de projet qui, là encore, n'est pas tout à fait commune.